J'aimerais commencer par vous partager le témoignage d'une maman. Elle fait le récit d'une épreuve qu'elle, son mari et leurs deux enfants ont traversée. Encore une fois, mon bébé s'endort sans avoir vraiment mangé. Elle a 9 jours de vie et ne s'alimente que quelques minutes à chaque repas. Mon instinct maternel perçoit la normalité de la situation. Je ne sais pas pourquoi, mais ce jour-là, nous allons en famille chez le pédiatre qui veut bien nous recevoir sur ses créneaux d'urgence. S'ensuit la consultation. Sans trop de détails, le médecin de ma fille nous indique la marche à suivre. Nous devons aller aux urgences pédiatriques, notre bébé ne va pas bien. Nous prenons la route de l'hôpital et sur le chemin, sans faire de détour, nous déposons son frère, aîné, chez des amis. Arrivés aux urgences, on nous enlève notre bébé, pour des examens complémentaires ainsi qu'une radio. Nous n'en savons pas plus. Juste au moment de donner notre bébé pour ses examens, nous entendons une infirmière dire « Elle est grise ». Nous attendons sans trop réaliser ce qui est en train de se passer. Le tempo s'accélère, notre bébé a besoin d'être intubé. Quelques minutes après avoir reçu cette nouvelle, nous apprenons qu'il n'y a plus de place pour réaliser ce geste et que vraisemblablement, nous allons être redirigés vers un hôpital mieux équipé. Puis, une autre information tombe. L'équipe médicale va tenter dans un premier temps une simple injection de caféine afin, d'après ce qui nous est expliqué, de booster notre bébé pour qu'elle continue à respirer. Nous recevons des informations par bribes. L'équipe qui prend en charge notre bébé s'affaire autour d'elle. De son petit corps groggy s'échappent plusieurs fils permettant de surveiller différents paramètres. Des petites lunettes à oxygène lui amènent la vie. Elle se retrouve sur un lit à barreaux surélevés en déclive, branché à un scope qui pipe bien trop souvent. Exposée, sans défense, elle est en suspens, en attente. Nous nous regardons, son papa et moi, démunis, abasourdis, seuls. C'est qui tout double, comprenons-nous. Nous touchons du doigt, du bout du cœur, la douleur de perdre un enfant. Rien n'est dit, mais tout est largement perçu. Une plaie s'ouvre, béante. Nous avons l'impression d'être happés par notre souffrance et observant en silence sa poitrine se soulever anarchiquement au prix de tant d'efforts. La peur fait son lit, sournoisement. Nous continuons aujourd'hui la série de prédications qui a pour thème « En chemin vers Pâques » avec un passage qui se trouve dans l'évangile de Marc. Si vous traversez un moment difficile, une situation compliquée, alors ce texte est pour vous. Nous lirons donc les versets 43 à 65 du chapitre 14 de l'évangile de Marc. Mais avant cela, je vais prier. Seigneur, ouvre nos cœurs à ta parole pour que nous y trouvions la lumière dans notre tristesse, la certitude dans nos doutes et la force pour vivre cette saison de vie et les suivantes dans la foi et dans l'espérance. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Donc lecture dans le chapitre 14 du livre de Marc, versets 43 à 65. Aussitôt comme il parlait encore, survint Judas, l'un des 12, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens. Celui qui le livrait leur avait donné un signal. « Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui. Saisissez-le et emmenez-le sous bonne garde. » Aussitôt arrivé, il s'approcha de Jésus en disant « Rabbi !» et il l'embrassa. Alors, ses gens portèrent les mains sur Jésus et le saisirent. Un de ceux qui étaient là tira l'épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Jésus prit la parole et leur dit « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous, j'enseignais dans le temple, et vous ne vous êtes pas saisis de moi. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. » Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, vêtu seulement d'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha le drap et s'enfuit tout nu. Ils emmenèrent Jésus chez le souverain sacrificateur, où se réunirent tous les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes. Pierre le suivit de loin, jusque dans l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur. Assis avec les gardes, il se chauffait près du feu. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir, et ils n'en trouvaient pas, car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne concordaient pas. Quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui en disant « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait par la main de l'homme, et en 3 jours j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait par la main de l'homme. » Et même sur ce point-là, leur témoignage ne concordait pas. Alors le souverain sacrificateur se leva au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit « Ne réponds-tu rien ? Qu'est-ce que ces gens témoignent contre toi ?» Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Jésus répondit « Je le suis. » « Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant avec les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit « Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Vous avez entendu le blasphème. Que vous ensemble ?» Tous le condamnèrent comme passible de mort. Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing en lui disant « Devine !» Et les gardes le reçurent avec des gifles. Ce témoignage m'a rappelé que comme Jésus dans le jardin de Gethsémané, nous sommes souvent confrontés à la peur et à la souffrance. Nos situations de vie nous emportent, bien loin, dans le tumulte de nos âmes. Mais ce texte de Marc que nous venons de lire ensemble nous montre aussi qu'il existe un chemin de réconfort et de soutien, un chemin où Jésus lui-même, dans sa souffrance, nous offre la paix. Aujourd'hui, regardons comment nous pouvons réagir face à ces épreuves et comment Jésus nous supporte et nous transporte. J'ai donné un titre à mon message « La peur et la souffrance nous emportent. Jésus nous supporte et nous transporte. » J'aimerais commencer par mettre un peu de contexte par rapport à ce que nous venons de lire. Après le repas où il est question de l'institution de la Pâque, Laurent nous en a parlé il y a 15 jours, Jésus applique les éléments du rite pascal à sa propre mort. Il quitte la ville avec ses disciples, se rend à Gethsémané sur le mont des Oliviers pour un moment de prière. C'est un moment de prière, mais c'est un moment d'angoisse aussi. Cela précède son arrestation, c'est le passage qui nous concerne aujourd'hui. Il faut s'imaginer que nous sommes en pleine nuit. Il est environ 2 heures du matin. À cette époque de l'année, il ne fait vraiment pas très chaud. Jésus vient de passer un certain temps à prier, accompagné de ses disciples, qui eux se sont endormis et n'ont pas réussi à veiller, et ils n'ont pas su l'entourer. Donc on peut penser vraiment là que l'atmosphère est chargée, tendue. Jésus, lui, sait qu'il va devoir boire la coupe amère, jusqu'à la lie. La lie, je ne sais pas si vous savez ce que c'est le dépôt en fait qui se trouve au fond d'une bouteille de vin, et c'est vraiment amer au goût. Donc ce tableau, il est vraiment glauque. L'angoisse étreint Jésus, son âme est triste jusqu'à la mort. Dans un autre évangile, celui de Luc, on sait même que sa sueur devient comme des grumeaux de sang qui tombent à terre. Rappelons-nous les festivités de la Pâque. Elles sont en cours. Là, l'ambiance que nous avons est vraiment contraire. Nous passons d'une scène joyeuse, de repas partagés, à une descente progressive aux enfers, si je peux me permettre l'expression. Ce n'est pas pour vous, mais en ce qui me concerne, je trouve que ce texte, qui raconte l'arrestation de Jésus et son jugement, est d'une violence inouïe. En fait, jusqu'à présent, Jésus n'a pas vraiment pu respirer. Son arrestation va mettre en pause son mouvement, douloureusement. Je vous propose de vivre cette parenthèse ensemble. Imaginez, ou plutôt imagine, que tu marches seul dans le noir. Tout est calme. Et soudain, tu entends un bruit derrière toi. Ton cœur s'accélère, l'adrénaline monte, tu n'attends pas de voir ce que c'est. Tu cours. Enfin, moi je cours en tout cas. Pourquoi? Parce que la peur en fait nous pousse à agir instinctivement. C'est exactement ce qui se passe dans cette scène de la passion de Jésus. Passion veut dire souffrance. Donc nous allons voir comment Judas, le disciple trahi par peur, comment les autres disciples fuient par peur. Un homme abandonne tout et s'enfuit nu par peur. Mais au milieu de tout ça, Jésus, lui, reste ferme. Et nous verrons comment la peur nous emporte et la souffrance nous écrase. Alors que Jésus, lui, est là, il nous supporte et nous transporte. Donc ce sera mon premier point. Quand la peur nous emporte, Jésus nous supporte. Et on va d'abord s'intéresser à Judas. À Judas qui est la peur qui trahit. Judas était un disciple, il a marché avec Jésus. Il a écouté ses enseignements pendant longtemps, vraiment. Il a vu ses miracles. Mais quelque chose l'a effrayé. Il s'est dit, et si ce Jésus n'était pas celui que j'espérais? Il voulait un Messie conquérant, un Messie qui renverse Rome, qui renverse l'oppresseur. Mais Jésus, lui, parlait d'aimer ses ennemis. Alors Judas a décidé de forcer Jésus à agir en le livrant. Et moi, est-ce que je perds confiance en Jésus quand il ne fait pas ce que j'attends? Est-ce que je choisis de bâtir des forteresses à l'intérieur pour éviter de me laisser submerger par la peur? Est-ce que je refuse la vulnérabilité pour ne pas souffrir? C'est terrible, en fait, de donner sa confiance pour finalement être trahi. Il est des situations où nous nous retrouvons détruits à l'intérieur, mais Dieu est présent pour reconstruire petit à petit. Il se révèle être un rempart, en fait, contre les tentatives d'intrusion. On peut l'illustrer par un élève, par exemple, qui triche un examen parce qu'il a peur d'échouer. Il croit contrôler la situation, mais au final, il finit par tout perdre. Comme Judas. Judas a voulu forcer les choses et il a tout perdu. Ne laisse pas ta peur t'éloigner de Dieu. Laisse Dieu t'éloigner de ta peur. Regardons comment réagissent les autres disciples. La peur qui fait fuir. C'est vraiment leur cas en fait. Jésus est arrêté, les disciples paniquent, et pourtant, on le voit quelques heures plus tôt, Pierre avait dit « Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas » dans Marc 14, verset 31. Mais sous la pression, il fuit, sans réfléchir. Quand l'épreuve arrive, est-ce que je reste fidèle à Jésus? Ou est-ce que je prends la fuite? Où je botte en touche les difficultés. On peut prendre le cas d'un enfant, un enfant qui ment parce qu'il a peur en fait d'être puni, il réagit instinctivement. Et là, c'est ce que font les disciples. Et nous, quel est notre fonctionnement? Fuir ou tenir ferme? La peur fait courir, mais Jésus fait tenir. Il y a également la situation de l'homme. L'homme qui fuit, nu. C'est la peur, en fait, qui nous met à nu. Cet homme, c'est peut-être Marc lui-même, était prêt à suivre Jésus. Mais quand il est en danger, il abandonne tout et s'enfuit nu. Pourquoi? Parce que la peur nous dépouille de notre courage, de notre foi, parfois même de notre dignité. Cet homme préfère perdre ses vêtements plutôt que d'être arrêté. Et moi, est-ce que ma peur me dépouille de ma foi, de ma confiance en Dieu? Si c'est le cas, ça peut être terrible. Parce que quand la peur prend le dessus, elle nous laisse, sans défense. Heureusement, Jésus est présent et il nous supporte si nous gardons confiance en lui. Et si la souffrance est là, si la souffrance nous écrase, Jésus est lui est aussi là et il nous transporte. Ce sera donc mon deuxième point. Quand la souffrance nous écrase, Jésus nous transporte. Nous pouvons souffrir de l'injustice quand tout semble être contre nous au final. C'est ce que l'on ressent. Les chefs religieux cherchent un prétexte pour condamner Jésus. Même les faux témoins ne sont pas d'accord entre eux. Jésus est innocent. Il est traité comme un criminel. Quand je suis accusé injustement, est-ce que je me débats ou est-ce que je laisse Dieu agir? Vais-je être aveuglé par mon orgueil et chercher à me faire justice? Par exemple, un employé qui est accusé à tort au travail et qui doit choisir entre se défendre violemment ou faire confiance à Dieu, ce n'est pas simple. J'ai hésité à vous partager cette anecdote, mais bah, du coup, je vais le faire. Quand j'ai repris les vols à la suite de nombreuses années de congé parental, je suis passée donc du secteur moyen courrier au secteur long courrier, j'ai été accusée, le terme est peut-être un peu fort en ce qui me concerne, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti, j'ai été accusée d'un manque de cohésion d'équipage. Je n'avais pas eu vraiment de formation par rapport à ce qui était attendu sur le long courrier. Du coup, après ces nombreuses années d'absence, j'ai eu du mal à raccrocher les wagons, et sachant qu'en fait, c'était quand même assez différent. Ces méconnaissances des attentes du long courrier m'ont fait défaut. Et du coup, c'est au sortir du poste repos que quelques heures avant l'atterrissage du vol retour, je me suis rendu compte que quelque chose n'allait pas. La chef de cabine principale m'a pris entre quatre yeux. On a fermé les rideaux, vous savez, c'est les rideaux des offices, là où on prépare les prestations pour les passagers. Et donc elle a fermé les rideaux et puis elle m'a dit ce qui se passait. Et là, je suis tombée des nues, j'ai pas compris. Mais la réalité était là, il a fallu terminer le vol, les larmes aux yeux, en faisant bonne figure. Et je me sentais injustement acculée. Et à la fin du vol, quand tout le monde se sépare, je suis allée voir la chef d'équipage et du coup, je lui ai dit un peu mon sentiment. Elle n'avait pas eu toutes les données de l'équation et elle a compris. Ça se terminait par un accompagnement au final sur les prochains vols pour me protéger. Donc Dieu a vraiment bien fait les choses. J'étais tiraillée, moi. La colère montait vraiment devant ce procès d'intention, mais c'était inutile de monter au créneau. Il a fallu que je ravale ma fierté. Il a fallu que je fasse confiance. Et ça m'a permis de continuer sereinement. Il a planifié le chemin bien mieux que moi je ne l'aurais fait. Il fallait vraiment que je prenne cette promesse. Il avait déjà justifié ma vie. Il n'avait pas besoin de me justifier. Les choses allaient être faites dans la paix. Nous pouvons aussi souffrir de la condamnation. Le souverain sacrificateur demande à Jésus: « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Jésus aurait pu se taire et sauver sa vie, mais il a affirmé son identité, même si cela lui a coûté la mort. En fait, ici, Jésus fait référence à un passage que l'on trouve dans le livre de Daniel, au chapitre 7, versets 13 et 14. Il est dit: « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. On lui donna la domination, la gloire et le règne. » Jésus cite ce passage lorsqu'il affirme son identité, annonçant que sa souffrance n'est pas une défaite, mais un chemin vers la gloire. Et moi, est-ce que j'ai peur d'assumer ma foi? Cela peut être vraiment difficile. Qui aime se sentir exclu d'un groupe qui peut être un fondement inconscient de notre propre identité? Jésus a assumé qui il est. À moi d'assumer qui je suis en lui. une autre raison de souffrance peut être l'humiliation. L'humiliation du rejet. Jésus est humilié, frappé, moqué, mais il ne répond pas par la violence. Il est écrit, et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing en lui disant « Devine !» Et les gardes le reçurent avec des gifles. La violence psychologique et physique reste présente. Jésus vit l'humiliation et par des claques répétées sur son visage, il souffre. Mais il garde les yeux fixés sur sa mission. Et moi, comment est-ce que je réagis quand je suis rejetée ou blessée, en étant piquée au vif? J'aurais plutôt tendance à me défendre, voire à surenchérir. C'est comme un joueur de foot, par exemple, insulté, hué, qui choisit au final de rester concentré sur son match. On a craché sur Jésus, mais il n'a pas cessé d'aimer. Et là, vous vous dites, waouh, la barre est haute. Mais abordons notre dernier point. Celui où Jésus nous supporte et nous transporte. En tant qu'individu, nous avons donc à faire un choix. Nous avons vu trois réactions. Judas qui trahit, les disciples qui fuient, et Jésus qui tient ferme. Quelle sera ma réaction ? Un enfant qui apprend à marcher tombe encore et encore, mais son père le relève toujours. Jésus fait pareil avec nous. Quand la peur nous emporte, il nous supporte. Quand la souffrance nous écrase, il nous transporte. Quand tout semble perdu, il nous relève. Vous vous souvenez dans quelle situation nous avons laissé cette maman et son mari à l'hôpital ? Eh bien, voici la suite du témoignage. Je nous vois encore adossés, ou plutôt soutenus, par le mur blanc du box où nous nous trouvons. Pourquoi ? Comment ? J'ai l'impression de m'enfoncer dans une dimension juste irréelle, un inconnu pour moi, comme si quelque chose disjonctait. Je m'accroche au regard de mon mari, nos mains se serrent. Je n'ai qu'une envie, c'est de fuir dans ma douleur, mais nous prions. Impuissant, nous en remettant au Tout-Puissant. Il nous porte, nous supporte. Il n'y a que lui. 48 heures s'étirent mollement dans le brouillard. Nous avons déposé sa toute jeune vie entre ses mains. Le médecin, ce jour-là, nous fait un petit récapitulatif de la situation. Neutre, sans emphase. Je termine juste en disant, c'était qui tout double. Pendant 48 heures, nous ne savions pas si votre bébé arriverait à se battre. Nous sortons, elle et moi, après 9 jours d'hospitalisation. Pour reprendre une vie de famille certes interrompue, mais une vie qui se prolonge par la grâce de notre Dieu. Il nous a littéralement transportés d'une rive à l'autre. Cette expérience personnelle m'a appris à ne pas rester seule dans ma peur et ma souffrance, à ne pas m'enfermer dans la prison de mon âme blessée. Mais à chercher celui qui me soutient toujours et qui est assis à la droite du Tout-Puissant. Je ne sais pas dans quelle saison de vie tu es ou quelle épreuve tu traverses. Et oui, il arrive que nous soyons confrontés à des difficultés insurmontables dans la vie. Et c'est dur, très dur, de reconnaître et d'accepter que nous n'avons peut-être pas les moyens de résoudre notre souffrance. Mais nous ne sommes pas obligés de nous battre frénétiquement contre le malheur. Nous ne sommes pas obligés de nous replier sur nous-mêmes avec notre malheur et de nous résigner à survivre au lieu de vivre. Nous pouvons aussi entendre la voix de Dieu qui nous dit, comme il l'a dit à l'apôtre Paul dans ses souffrances, « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. » Vous trouvez ça en 2 Corinthiens au chapitre 12, verset 9. Je le répète, notre Père bien-aimé nous a dit, te dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. À toi, qui es dans cette situation, j'aimerais t'encourager en te proposant 4 leviers. Ça peut paraître très scolaire, mais Bien souvent, les choses scolaires sont celles qu'on retient. Donc, quatre leviers pour t'aider à poursuivre ultimement ton chemin. Premièrement, arrête-toi. Arrête-toi et ouvre la Bible pour retourner vers les informations infaillibles de Dieu qu'il a voulu te faire connaître. Peut-être ne trouveras-tu pas comment résoudre ton problème, mais cela t'aidera à rester ancré dans la vérité au lieu de te perdre dans tes ruminations. Arrête-toi et ouvre ta porte. C'est le deuxième levier. Peut-être que tu ne sais pas du tout quoi faire dans ton malheur, que tu te sens impuissant et désemparé. Se peut que la souffrance soit trop lourde, qu'elle décape tout à l'intérieur, comme de l'acide peut le faire. Et toi alors, tu préfères t'isoler, mais plutôt accueille l'amitié de tes frères et sœurs dans la foi. Simplement, ne te renferme pas et ne te laisse pas aveugler par la souffrance. Troisièmement, arrête-toi et ouvre ton cœur à ce que le bon Père Céleste est en train de faire dans ta vie. C'est sans nul doute difficile à entendre et comprendre, mais Dieu utilise parfois la souffrance parce qu'il faut la douleur pour attendrir la conscience endurcie. Je me rends bien compte que ce que je dis n'est vraiment pas simple à accueillir. Quatrième levier. Arrête-toi et ouvre les bras pour accueillir ton Rédempteur, ou plutôt pour être accueilli par ton Rédempteur. Jésus s'approche des malheureux. Jésus vient près de toi et il te dit « Viens, arrête-toi, viens, pose ta tête sur mon épaule. » Puis, il nous transporte afin que nous puissions être dynamiques et actifs dans ce processus de deuil et ou de guérison. Il faut juste, entre guillemets, juste ouvrir. C'est lui qui va manifester le cœur de Dieu, éprouver la disposition de Dieu envers les hommes, envers toi. Il va s'offrir lui-même comme rançon pour la délivrance des hommes, pour ta délivrance. Il va mourir sur la croix, au profit des croyants, puis il va monter au ciel pour le profit des croyants, pour dire à Dieu, le Père, à Dieu, son Père, délivre les pères, afin qu'ils ne descendent pas dans le gouffre. Job 33, verset 24. Ne reste pas seul dans ta souffrance, ne te laisse pas emporter par elle. Jésus t'attend, il veut te donner la force de traverser les épreuves, il te supporte. Jésus t'offre une espérance qui va au-delà de cette vie. Tu peux avoir l'assurance qu'il te transporte. Il a déjà payé le prix du passage. Jésus est avec toi, dans ta barque. Finalement, laissez-moi vous rappeler que si nous sommes encore là aujourd'hui, ce n'est pas parce que la route était facile, mais c'est parce que celui qui est avec toi, celui qui est avec nous, ne nous a jamais quittés et ne le fera jamais. En mettant ta foi en Jésus, tu peux être assuré qu'il ne te lâchera pas la main. Il te fera traverser le précipice. Un peu comme Indiana Jones. Voyez, l'image, il est de l'autre côté. Il te tend la main. Attrape-la. Quelle que soit ta peur, ta souffrance, ta maladie, ton péché, ta honte, ta culpabilité, ta prison, Jésus est celui qui vient à ton secours. Malgré la peur, malgré la souffrance, nous avons un soutien divin et constant. Amen. Tendez votre main. Au sein de notre église, des personnes peuvent vous accompagner. Vous pouvez aller voir notre pasteur, Laurent, qui vous mettra en relation avec des frères et sœurs susceptibles de vous aider. Vous pouvez rejoindre une cellule, un groupe de maison, mais ne restez pas seul, ou tout du moins pas trop longtemps. À chaque fin de culte, vous avez la possibilité aussi de recevoir la prière. Des personnes portant un badge sont présentes et disponibles pour cela dans les petites salles à l'arrière de la salle de culte. Et là, je vais faire un petit moment de pub. Tous les 2 mois environ, une soirée de louange et de prière se tient dans nos locaux. Cela peut être un moment propice pour vous, pour panser vos plaies. Pendant que l'équipe de louange s'installe, j'aimerais terminer par la lecture du psaume 23. Pour ceux qui sont là, pour la première fois, c'est un psaume que nous affectionnons particulièrement et que nous chantons régulièrement. Aux habitués, permettez-vous de goûter chaque mot et de saisir à nouveau ses vérités. Ce psaume est rempli de bénédictions, de choses prononcées pour notre bien, de promesses sur nos vies, un peu comme ce que les clauses d'un contrat d'assurance vie proposent, sauf que là, c'est gratuit. Je vous encourage à utiliser votre regard intérieur et à vous laisser convaincre par le Saint-Esprit, afin de vous laisser porter par les mots de David, un homme selon le cœur de Dieu. Psaume 23. Et je veux le proclamer. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour l'éternité. »